Chapitre 14. Schweik, ordonnance du lieutenant Lucas. Le bonheur de Schweik dura peu. La fatalité cruelle mit une brusque fin à son amical commerce avec le Feldkurat. Si ce dernier jusqu'ici a pu mériter notre sympathie, le fait que nous allons relater est de nature à le faire bien déchoir à nos yeux. En effet, le Feldkurat vendit Schweik au lieutenant Lucas, ou pour mieux dire le perdit aux cartes, tout comme naguère encore en Russie on faisait les serres. Cet accident survint d'une façon tout à fait inattendue. Ce fut lors d'une réunion d'officiers chez le lieutenant Lucas, où on jouait au 21. Le souverain maître des destinées de Schweik avait tout perdu, et ne sachant plus avec quoi continuer le jeu, il s'enquit. Combien seriez-vous disposé à me prêter sur mon ordonnance, Schweik? Un imbécile épique, un type très intéressant, un nec plus ultra du genre. Jamais personne n'a eu une ordonnance pareille. Ben, je veux bien te prêter 100 couronnes, répondit le lieutenant Lucas. Si tu ne me les rends pas après-demain ou plus tard, tu n'auras qu'à me passer ton as de tampon. Le mien est insupportable, il ne fait que se lamenter. Il écrit toute la journée des lettres chez lui, et avec ça, il vole tout ce qui lui tombe sous la main. J'ai beau le battre, rien n'y fait. Chaque fois que je le vois, je le gifle, mais ça ne m'avance pas. Je lui ai cassé comme ça 2 snurnes devant, mais ça lui a fait aucun effet. Entendu, alors, dit le Feldkurat avec insouciance, va pour 100 couronnes, mon Schweik, après-demain. Ayant perdu les 100 couronnes, il prit tristement la direction de ce logis, car il savait bien qu'il lui serait impossible de payer sa dette et qu'il avait bassement vendu son fidèle serviteur pour une misérable somme. J'aurais bien pu lui demander le double, méditait-il en changeant de tramway, mais les remords l'emportaient sur les regrets. C'est dégoûtant tout de même ce que j'ai fait là, pensa-t-il en ouvrant la porte de son appartement. Comment oserais-je supporter son regard de bête innocente? Mon cher Schweik, dit-il quand il se trouva face à face avec son ordonnance, oh, il est arrivé aujourd'hui un événement extraordinaire. J'ai eu une déveine fantastique aux cartes. Je faisais tout sauter. Une fois j'ai eu sous la main un as, une autre fois un 10, et le banquier, qui n'avait chaque fois tiré qu'un valet, a fini quand même par avoir le 21. Et ça a continué de même, jusqu'à ce que je sois ratissé. Le Feldkurat hésita. Et à la fin, dit-il après un intervalle, c'est vous que j'ai perdu, mon petit. J'ai emprunté 100 couronnes sur vous, et il faut les rendre après-demain. Sans cela, vous ne serez plus à moi, mais au lieutenant Lucas. Oh, je suis vraiment peiné. Ben, j'ai encore 100 couronnes, dit Schweik. Je peux vous les prêter. Ah, donnez-les-moi, dit vivement le Feldkurat. Je vais les lui porter tout de suite. Oh, je regretterai trop de me séparer de vous. Je viens payer ma dette, annonça triomphalement le Feldkurat au joueur encore attablé. Donnez-moi une carte. Je fais banco, ajouta-t-il lorsqu'on lui passa la carte. Oh, c'est malheureux, proféra-t-il, je dépasse, à un point seulement. Au second tour, il voulait encore faire sauter la banque. 20 ramasses, fit le banquier. J'ai 19, avoua tristement le Feldkurat, en remisant ses 40 dernières couronnes. De retour chez lui, il était déjà convaincu qu'aucune puissance humaine ne pouvait sauver Schweik, et que celui-ci était fatalement destiné à devenir le tampon du lieutenant Lucas. Il n'y avait rien à faire, mon pauvre Schweik. On ne lutte pas contre la fatalité. J'ai perdu, et vos 100 couronnes, et vous-même. Le destin était plus fort que moi. Je vous ai livré aux griffes du lieutenant Lucas, et le jour est proche où nous devrons nous séparer. « Est-ce que la banque était grosse ?» demanda Schweik tranquillement. « Ou est-ce que vous aviez peu souvent la main ?»« Quand les cartes tombent pas, c'est mauvais, mais souvent c'est encore pire, c'est même un malheur quand ça va trop bien. À Zieras, il y avait un ferblantier qui s'appelait Voivoda. Il avait l'habitude de faire une manie chez un bistrot derrière le café du siècle. Alors une fois, le diable s'en mêlant, il proposa à ses copains « Et si on se mettait à jouer le 21 à deux sous ?» Alors on a commencé, et lui, oh ben, il tenait la banque. Les autres étaient tous morts. Il y avait déjà 20 couronnes en banque. Comme le vieux Voivoda souhaitait la veine aux autres, aussi il a dit « Oh, si je tire un roi, lui, je passe la banque. Vous pouvez pas vous imaginer la déveine qu'ils ont tous eue. Ni le roi, ni le 8 ne voulaient sortir. La banque montait et elle comptait déjà 100 balles. » Aucun des joueurs n'avait assez de pognon pour la faire sauter. Et le vieux Voivoda suait à grosses gouttes. Il se tuait à répéter « Si je tire un roi ou un 8, je passe la banque. Si je tire un roi ou un 8, je passe la banque. » Et à chaque tour, il misait 10 couronnes qui restaient régulièrement. Alors un patron ramoneur, qui voyait déjà 150 balles en caisse, s'est mis en colère et est allé chez lui prendre de l'argent pour faire sauter la banque. Le père Voivoda, qui en avait déjà plein le dos, voulait même tirer jusqu'à 30 pour perdre dans tous les cas, mais au lieu de ça, voilà qu'il lève deux as. Il a fait semblant de rien et a dit « 16 ramasses, va te faire foutre, le ramoneur n'avait que 15. Est-ce que ça s'appelle pas une déveine, ça ?» Le vieux Voivoda était tout pâle et embêté comme une poule qui trouve un couteau, et les autres commençaient à chuchoter que c'était un vieux tricheur qui faisait sauter la coupe. Il disait aussi qu'il avait déjà ramassé une volée à cause de ça, et pensait que c'était lui le plus honnête de tous. Et il y avait déjà 500 balles à la banque. Oh, le bistrot n'y tenait plus, il avait justement préparé de l'argent pour payer la brasserie. Il l'a pris. Il s'est assis, il s'est mis à miser d'abord 200 balles, après il a retourné sa chaise en fermant les yeux pour attirer la veine, et il a dit « Messieurs, je fais banco. » Et encore, jouons cartes sur table. Le vieux Voivoda aurait donné tout ce qu'il avait pour perdre ce coup-là. Il a étonné tout le monde en regardant le set qu'il venait de tourner. Le bistrot rigolait dans sa barbe parce qu'il avait déjà 21 en main. Le vieux Voivoda lève encore un set, il le garde. « Maintenant, vous allez lever un as ou un 10, lui dit le bistrot, et je vous parie ma tête à couper que vous êtes mort. » Alors on aurait entendu voler une mouche. Le vieux Voivoda tourne, et figurez-vous qu'il tire le troisième set. Le patron est devenu vert, il était complètement décavé. Il s'en va à la cuisine, et 5 minutes après, son commis vient chercher les gars pour couper la corde du patron qui se balançait, pendu à l'espagnolette de la fenêtre. On l'a décroché, on l'a fait revenir à lui, et on a continué à jouer. Personne n'avait plus de pèse, tous les sous dans la banque étaient entassés devant Voivoda, qui ne faisait que dire « Un roi et un 8 et je passe la main !» et qui aurait voulu à tout prix être mort, mais comme il était obligé de jouer à cartes ouvertes, il était impossible, même en le faisant exprès, de dépasser le 21. En voyant ça, ils devenaient tous idiots, et faute de pognon, ils se sont mis d'accord pour signer des bons. Oh, ça a duré plusieurs heures, et les 1000 balles s'accumulaient toujours devant Voivoda. Le patron ramoneur devait déjà 1,5 million. Le charbonnier du coin, près d'1 million, le concierge du café du siècle, y était pour 800 000, un carabin pour 2 millions. Rien que dans la cagnotte, il y avait 300 000 balles en bons, bien entendu. Le vieux faisait des efforts désespérés pour perdre. À chaque instant, il s'en allait quelque part et laissait sa place à un autre, mais quand il revenait, on lui annonçait qu'il avait encore gagné. Alors ils ont pris un jeu de cartes tout neuf. Mais c'était toujours la même chose. Quand, par exemple, le vieux Voivoda s'arrêtait à 15, l'autre n'avait que 14. Tout le monde le regardait de travers, et celui qui gagnait le plus, c'était un paveur qui n'avait risqué que 8 couronnes. Ah, il disait qu'un type comme le vieux Voïvoda, la terre ne devrait pas le porter, qu'on devrait le vendre à rentrer à coups de pied, le foutre dehors et le noyer comme un chien. Vous n'avez aucune idée de l'état où était le vieux Voïvoda. Alors ensuite, il lui est venu une idée. « Je vais sortir, » qui dit au ramoneur, « tenez mes cartes. » Et sans chapeau, il court dans la rue Mislikova pour trouver des agents. Par hasard, il est tombé le nez dessus et leur a tout de suite dit que c'est chez un tel bistrot on jouait un jeu de hasard. Les agents lui ont dit d'aller devant, qu'ils le suivaient. Et à peine rentré dans la salle, on lui apprenait que le carabin avait perdu entre-temps plus de 2 millions et le concierge plus de 3, et que dans la cagnotte, il y avait déjà plus de 500 000 embons. Mais à l'instant même, les agents ont rappliqué dans le local. Le paveur criait « Sauf qui peut !» inutilement du reste, car les agents faisaient main basse sur la banque et la cagnotte avant de fourrer au poste toute la compagnie. Le charbonnier résistant des pieds et des mains, on était obligé de l'introduire dans le petit panier à salade du service de nuit. Dans la banque, les agents ont trouvé plus d'1,5 milliard en bons et 1500 couronnes en espèces. « Non, elle est reine celle-là, » m'a dit l'inspecteur de police en apprenant le montant des enjeux. « On se croirait à Monte-Carlo. » Tout le monde est resté au poste jusqu'au lendemain, sauf le vieux Voïvoda. Il avait été relâché en récompense pour avoir dénoncé la chose et on lui avait promis un tiers de la somme saisie. Ça faisait juste 160 millions et ça l'a rendu louftingue. Le matin de très bonne heure, il est allé commander une douzaine de coffres-forts. Et voilà ce qu'on appelle avoir de la chance aux cartes. Mais le Feldkuhan demeurait inconsolable et Schweik se résigna à faire des grogues. Vers minuit, pendant qu'il mettait couché son maître, non pas sans beaucoup de tirage, le joueur malheureux sanglotait encore. « Je t'ai vendu, camarade, salement vendu. Maudis-moi, frappe-moi autant que tu veux, je t'en donne la permission. Je t'ai livré en proie à la fureur du sort. J'ose pas te regarder en face. » Piétine-moi, mords-moi, tue-moi, je mérite que ça. Mais sais-tu quel homme je suis ? » En enfonçant dans l'oreiller son visage baigné de larmes, il ajouta d'une voix faible et douce : « Je suis un lâche, un infâme. » Et il s'endormit sur le champ. Le lendemain, ayant soin d'éviter le regard de Schweik, il sortit très matin et ne rentra que tard dans la nuit, flanqué d'un abat, sa nouvelle ordonnance. « Mettez-le au courant du service, » dit-il, fuyant toujours le regard de Schweik, « et apprenez-lui bien à faire les grogues. Demain, vous irez vous annoncer au lieutenant Lucas. » Schweik et son successeur passèrent agréablement la nuit à se chauffer des grogues. Au réveil, le nabot, qui se tenait à peine sur ses jambes, éprouva le besoin de chanter un original pot pourri d'air populaire. Oh, « pour toi, je peux être tranquille, c'est réglé !» déclara Schweik à son élève. « Avec des dispositions comme t'en as, tu peux être sûr de faire l'affaire de M. l'aumônier. » Le matin même, le brave soldat Schweik montra pour la première fois sa face pleine de franchise et de probité à son nouveau maître, le lieutenant Lucas. « Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, » annonça-t-il, « que c'est moi le Schweik que M. l'aumônier Katz a perdu aux cartes. » Les officiers emploient des ordonnances depuis l'âge le plus reculé. Il est probable qu'Alexandre le Grand avait déjà son tampon. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque féodale, ce rôle était tenu par des soldats mercenaires au service des chevaliers. Sancho Panza, le fidèle serviteur de Don Quichotte, qu'était-il autre en somme ? Je me suis toujours étonné qu'aucun savant n'ait pensé à écrire l'histoire des ordonnances à travers les siècles. Elle nous apprendrait que le duc d'Almaviva mangea son ordonnance au siège de Tolède. Comme ce gentilhomme nous le dit dans ses mémoires, il avait si grand faim qu'il ne pensa même pas à saler sa victime. Elle avait la chair tendre, fondante comme du beurre, et d'un goût entre la poule et l'âne. Dans un vieux livre bavarois sur l'art militaire, on trouve aussi des instructions à l'usage des ordonnances. D'après ce livre, les qualités requises pour celui qui se destinait à cette carrière étaient la piété, la vertu, l'horreur du mensonge, la modestie, la vaillance, l'audace, l'honnêteté et l'amour du travail. En un mot, l'ordonnance devait réaliser l'idéal du temps. Notre âge moderne a apporté au type de l'ordonnance une modification assez sensible. Le tampon d'aujourd'hui n'est plus ni pieux, ni vertueux, ni véridique. Il ment, il escroque son maître dont la vie, grâce à lui, devient souvent un enfer. C'est un astucieux esclave qui invente toutes sortes de machinations pour empoisonner l'existence de son maître. La nouvelle génération des tampons est loin d'offrir des serviteurs dévoués jusqu'à se laisser manger sans sel comme le magnanime Fernando du duc d'Alma Viva. D'autre part, nous voyons que les maîtres d'aujourd'hui, en livrant à leurs ordonnances une lutte acharnée pour sauvegarder leur autorité, ne reculent devant aucun moyen. C'est en quelque sorte le règne de la terreur. En 1912, à Graz, en Styrie, un procès sensationnel apporta des documents précieux sur le sujet qui nous préoccupe. Un capitaine tua son ordonnance à coups de pied, comme il avait l'habitude de lui en administrer systématiquement. Le conseil de guerre l'acquitta sous prétexte que l'officier n'en était qu'à son deuxième cas. La vie individuelle du tampon n'a donc aucune valeur. Ce n'est qu'un souffre-douleur, un esclave, et par-dessus le marché, une bonne à tout faire. Dans ces conditions, rien d'étonnant qu'il se défende par la ruse. Il y a des cas où le tampon est élevé au rang d'un favori. Alors là, il fait la pluie et le beau temps dans la compagnie et le bataillon. Tous les sous-officiers veulent s'attirer ses bonnes grâces. C'est lui qui décide des permissions, c'est lui qui intervient au rapport pour que tout marche bien. Pendant la guerre, ses favoris méritaient force médailles d'argent, grandes et petites, dignes récompenses de leur courage et de leur valeur. Le 91e de ligne comptait plusieurs de ces héros ainsi honorés. Un tampon reçut la grande médaille d'argent seulement parce qu'il était expert à voler et à cuisiner des oies. Un autre eut la petite médaille d'argent parce qu'il n'était jamais à court de savoureuses denrées alimentaires qu'on lui envoyait de chez lui et qu'il en ravitaillait son maître en telle quantité que celui-ci s'en flanquait tous les jours une bosse. C'est dans ces termes que sa décoration fut proposée par son maître à qui de droit. Pour avoir fait preuve, au cours de plusieurs combats, d'un courage et d'une valeur exceptionnelle au mépris de la mort, et restant fidèlement aux côtés de son officier sous le feu de l'ennemi qui préparait une attaque. Mais ses seuls exploits guerriers consistaient à saccager, loin du front et sans coup férir, les poulaillers du voisinage. La guerre eut pour effet non seulement de modifier la position du tampon envers son maître, mais aussi d'en faire l'individu le plus honni de tous les hommes sans distinction. À la distribution des boîtes de conserve, une pour cinq hommes, le tampon s'en appliquait une à lui tout seul. Sa gourde était toujours remplie de rhum ou de cognac. Toute la journée, il ne faisait que mastiquer du chocolat, boulotter des biscuits d'officier, fumer les cigarettes de son patron, fricoter pendant des heures entières de petits plats et des gourmandises, et se promener en veste de parade. Le tampon vivait toujours en intime rapport avec l'ordonnance de la compagnie. Il l'approvisionnait en relief de la table de son officier et de la sienne, et l'admettait aux avantages dont il jouissait lui-même. Avec le sergent-major de la comptabilité, ces deux hommes formaient un trio pour lequel l'existence de l'officier n'avait pas de secret, ainsi du reste, que tous les plans d'opération et tous les ordres de bataille. La section la mieux informée était toujours celle dont le caporal était le plus lié avec le tampon. Quand celui-ci avait dit, par exemple, « À 2h35, on foutra le camp », c'est à 2h35 précises que les soldats autrichiens se détachaient de l'ennemi. Le tampon cultivait aussi des relations avec le cuisinier. Il errait toute la sainte journée autour des marmites et commandait son menu comme au restaurant. Ah, « Donne-moi une bonne tranche, bien entrelardée, disait-il. Hier, tu m'as foutu rien que des os. Ah, mais j'ai aussi un bout de foie dans ma soupe. C'est bien que je ne bouffe pas de rette. » La spécialité du tampon était de semer la panique. Au bombardement des tranchées, il lâchait son courage dans son pantalon. À ces moments-là, il se terrait avec ses bagages et ceux de son officier dans un refuge préparé à l'avance et se faisait encore un bouclier d'une des couvertures. Il souhaitait alors ardemment que son officier fût blessé, ce qui lui permettrait de se retirer à l'arrière, bien loin, à l'intérieur. Pour provoquer la panique, il s'entourait toujours de quelques mystères. « Il me semble qu'ils sont en train de replier le téléphone », confiait-il au passage en allant de section en section. Et il n'était jamais si content que quand il pouvait affirmer « Ça y est, le téléphone est bouclé !» Personne ne goûtait autant que lui les joies de la retraite. Alors il en arrivait à oublier que les balles et les shrapnels sifflaient au-dessus de sa tête. Il se frayait énergiquement un chemin, toujours avec ses bagages, jusqu'au siège de l'état-major où stationnait le train. Il aimait beaucoup le train de l'armée autrichienne et profitait largement de sa qualité de tampon pour le charger de sa personne et de ses bagages. Le cas échéant, il ne dédaignait pas d'avoir recours pour ce service au chariot sanitaire. Et quand il était obligé d'aller à pied, il marchait en homme abattu et recru de fatigue. Dans des circonstances pareilles, il laissait en plan les bagages de son maître et ne sauvait que son bien à lui. S'il lui arrivait d'être fait prisonnier dans la tranchée sans son officier, le tampon ne manquait jamais de s'approprier les effets de son ancien maître et il les traînait partout. J'ai vu un tampon qui marchait en compagnie des soldats faits prisonniers en Russie, de Dubno à Darnitche, en passant par Kiev. En plus de son havresac à lui, il avait celui de son ancien maître, 5 petites valises, 2 couvertures et un oreiller, et portait un gros paquet sur la tête. Il se plaignait que les Cosaques lui eussent dérobé 2 autres valises. Je n'oublierai jamais la silhouette de cet homme, vivant fourgon de déménagement, qui avait traversé avec ce fardeau presque toute l'Ukraine. Je ne saurais comment il a eu la force de faire ainsi des centaines de kilomètres avant d'être enfin délesté par la mort à Tashkent. Il y périt de fièvre typhoïde et ses bagages lui servirent au moins de lit de mort. Aujourd'hui, aux endroits les plus reculés de la République tchécoslovaque, on trouve des anciens tampons toujours prêts à se vanter de leur conduite héroïque dans la Grande Guerre. Chacun d'eux a pris d'assaut les positions de Sokol, de Dubno, de Niche, de la Piave, et à l'en croire, chacun d'eux était un Napoléon. Alors j'ai dit à notre colonel de téléphoner à l'état-major qu'on pouvait y aller. La plupart du temps, ils étaient de convictions réactionnaires et détestaient des soldats. Il y avait parmi eux des dénonciateurs dont tout le plaisir était de voir les soldats suspendus aux arbres, les poignets croisés au creux des reins de façon à toucher juste le sol du bout du pied. Enfin, les tampons constituaient une caste à l'égoïsme sans borne. D'origine tchèque, le lieutenant Luka était le type achevé de l'officier de carrière dans la monarchie austro-hongroise à la veille de la débâcle. L'école des cadets avait fait du lieutenant un être à deux visages, une sorte d'amphibie. Dans le monde, il parlait allemand, langue dans laquelle il écrivait aussi, mais il lisait de préférence des livres écrits en langue tchèque et au cours qu'il était chargé de donner aux candidats du volontariat d'un an, futurs officiers de réserve qui, du reste, étaient tous tchèques, il disait souvent à ses élèves, sur un ton de confidence, « Nous savons que nous sommes tchèques, mais il est inutile de le crier sur les toits. Moi aussi, je suis tchèque, vous savez. » Il considérait la qualité de tchèque comme une sorte de société secrète où il serait dangereux d'être impliqué. En dehors de ce point, ce n'était pas un méchant homme. Il ne craignait pas ses supérieurs et aux manœuvres s'occupait avec sollicitude de sa compagnie. Il s'arrangeait toujours pour la loger confortablement dans des greniers et souvent payait de sa poche à boire aux hommes. Il était content d'entendre chanter les soldats en marche. Il voulait aussi qu'ils chantent en allant à la plaine d'exercice et au retour. Marchant à côté de son compagnie, il chantait avec elle. Et voilà qu'à minuit, l'avoine du sac s'enfuit, tralala boum boum. Il était bien vu par les soldats qu'il aimait pour son esprit de justice et parce qu'il ne tyrannisait personne. Les sous-officiers tremblaient devant lui. Il lui suffisait d'un mois pour changer en agneau pacifique le plus brutal sergent-major. Il criait souvent, c'est vrai, mais sans jamais injurier grossièrement, car il choisissait toujours ses mots avec soin. « C'est à contre-cœur, voyez-vous, disait-il, que je vous punis, mon garçon, mais qui puis-je faire ? La discipline avant tout. » C'est d'elle que dépend le moral et l'efficacité de l'armée. Sans elle, les soldats ne sont que des roseaux pliant à tous les vents. Si vous ne tenez pas votre uniforme en bon état, s'il vous manque des boutons ou s'ils sont mal cousus, c'est un signe certain que vous oubliez vos devoirs envers l'armée. Vous avez peut-être peine à comprendre que vous méritez d'aller en prison parce que, hier à la revue, il y avait un bouton manquant à votre veste, une bagatelle, un rien que dans le civil, on ne remarquerait même pas. Et pourtant, voyez-vous, une petite négligence pareille de votre part vous expose nécessairement à une punition. Pourquoi ? Ce qui est en jeu, ce n'est pas un malheureux bouton, mais bien l'obligation pour vous de prendre des habitudes d'ordre. Aujourd'hui, vous ne recousez pas votre bouton, et c'est le commencement du désordre. Demain, vous trouverez déjà incommode démonter votre fusil pour le nettoyer. Vous oublierez votre baïonnette chez le bistrot. Et à la fin, vous vous endormirez, étant en faction. Et de tout cela, le germe aura été ce malheureux bouton. Voilà, mon garçon, pourquoi je vous punis. C'est dans votre intérêt, pour vous éviter la punition plus grave que vous ne tarderiez pas à récolter en continuant à négliger vos devoirs. Allez, vous me ferez 5 jours, et je vous souhaite de profiter de ces loisirs, au pain sec et à l'eau, pour réfléchir un brin, pour comprendre ce que la punition n'est nullement une vengeance de notre part, mais un simple moyen d'éducation, employé dans le seul but de faire du soldat puni un meilleur soldat. » Depuis longtemps déjà, le lieutenant Lucas aurait dû passer capitaine. Mais sa prudence concernant la nationalité tchèque ne lui servit de rien. Son avancement s'ajournait à cause de la franchise dont il ne se départait jamais dans ses relations avec ses supérieurs, car il avait la flatterie en horreur. Son caractère avait gardé quelque chose de celui du paysan tchèque du midi de la Bohême. Il était né dans un village de cette contrée pleine de sombres forêts et des temps glauques. S'il était juste envers les soldats, en général, il détestait les ordonnances parce qu'il avait toujours eu le malheur de tomber sur des tampons ignobles. Il les giflait et essayait de les redresser par des remontrances continuelles et en leur donnant des exemples d'une conduite irréprochable. Mais ses efforts restèrent vains. Pendant des années entières, il luttait désespérément avec les ordonnances, en changeant sans cesse, mais chaque fois il finissait par soupirer. « Ah, encore un abruti pire que le dernier !» En désespoir de cause, il les considérait comme une espèce inférieure du règne animal. D'ailleurs, il aimait les animaux. Il avait un serin de Harz, un chat angora et un griffon d'écurie. Tous les tampons qu'il avait eus successivement à son service maltraitaient ces animaux, bien plus que le lieutenant Lucas ne les maltraitait eux-mêmes quand ils avaient commis la plus grande saleté. Ils laissaient tous, comme un seul homme, mourir de faim le serin. L'un d'eux creva un œil au chat, et l'infortuné griffon était rossé jusqu'au sang, pour eux tous indistinctement. L'un des prédécesseurs de Schweik s'était même avisé de conduire la pauvre bête à la fourrière à Pancras pour la faire exécuter et paya joyeusement de sa poche les 10 couronnes prises de cette opération. Et il annonça tout simplement au lieutenant que le chien s'était égaré à la promenade. Mais le cruel tampon fut bien puni, car on l'envoya d'urgence rejoindre sa compagnie. Lorsque Schweik se présenta chez le lieutenant Lucas pour lui annoncer qu'il passait à son service, son nouveau maître le fit entrer dans sa chambre et lui dit « Vous m'êtes recommandé par M. l'aumônier Katz et j'espère que vous serez digne de sa recommandation. J'ai déjà eu pas mal d'ordonnances et ils n'ont pas vieilli à mon service. Je tiens à vous faire remarquer que je suis très exigeant et que j'ai pour principe de punir avec une extrême sévérité le moindre micmac et le moindre mensonge. Chez moi, il s'agit toujours de dire la vérité et d'exécuter tous mes ordres sans rouspétance. Quand je vous dirai « sautez dans le feu », il faudra obéir, même si ça ne vous amuse pas. Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça, voyons ?» Pendant l'exhortation du lieutenant, Schweik n'avait pu s'empêcher de regarder la cage du serin suspendue au mur. Obligé de répondre à la question de l'officier, il prononça de sa voix suave « Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je vois là un canari du Harz. » Sans regret de troubler l'éloquence du lieutenant, Schweik gardait scrupuleusement la position militaire et le fixait sans broncher. Lucas allait l'interpeller brutalement quand il s'aperçut de l'expression d'innocence dont rayonnait le visage de Schweik. « Dans sa recommandation, M. l'aumônier m'a dit que vous étiez un imbécile épique, et je crois qu'il ne s'est pas trompé. Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que M. l'aumônier ne s'est pas trompé du tout. Quand je servais dans mon régiment, j'ai été réformé pour idiotie, ou pour idiotie notoire encore. Nous étions deux, moi et puis un capitaine qui s'appelait von Kaunitz. » « Celui-là, sauf votre respect, mon lieutenant, quand il se promenait dans la rue, il avait toujours un doigt de la main gauche fourré dans le trou de nez gauche et le pouce de la main droite dans le nez droit. Et quand il allait avec nous au champ de manœuvre, il nous faisait toujours mettre en rang, comme pour un défilé, et disait « Soldats, n'oubliez pas, qu'on est mercredi aujourd'hui, et parce que demain, on sera jeudi, Le lieutenant Lucas haussa les épaules comme un homme qui ne sait que penser ou qui ne veut pas comprendre. Il se contenta donc de marcher entre la porte et la fenêtre, passant et repassant devant Schweik, qui, selon le règlement, le suivait des yeux pour être prêt à lire dans les siens. Le regard de Schweik exprimait tant de candeur que le lieutenant Lucas reprit, sans faire semblant d'avoir entendu l'histoire du capitaine idiot, « Oui, chez moi, il faut de l'ordre, de la propreté et surtout jamais de mensonge. Le mensonge est quelque chose que je déteste et que je punis sans merci. Est-ce que vous me comprenez ?»« Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je vous comprends très bien. Rien de plus mauvais que quand on ment. » Dès qu'on commence à s'embrouiller, on est fichu. Dans un village près de Pelsbrikhof, il y avait un instituteur qui s'appelait Vanek, et il courtisait la fille du garde forestier Spera. Mais cet homme-là a fait savoir à l'instituteur que s'il l'attrapait jamais dans le bois, derrière les jupes de sa fille, il lui expédierait dans le derrière du crin coupé, mélangé avec du sel. L'instituteur lui a fait répondre qu'il n'allait jamais au bois avec la fille. Mais une fois qu'il attendait la gosse, le garde, lui, est arrivé, le nez dessus, et allait déjà le soumettre à la petite opération promise. Alors l'instituteur a juré qu'il était seulement venu pour cueillir une fleur qui manquait dans son herbier, et le garde a bien voulu le croire. Un second coup, l'instituteur a prétendu qu'il cherchait dans le bois un insecte très rare. Et le pauvre type bafouillait tellement qu'il a fini par raconter qu'il était venu poser les collets à Lièvre. Le garde lui a fait jurer que c'était la vérité et l'a conduit ensuite à la gendarmerie. De là, l'instituteur a passé au tribunal et il a bien failli aller en prison. Et pourtant, c'était bien simple. S'il avait dit la vérité, il aurait eu qu'un peu de crin coupé, mélangé avec du sel. Donc moi je suis d'avis que dans tous les cas, on a raison d'avouer. Mieux vaut toujours être franc. Et quand il m'arrive de faire quelque chose qui convient pas, ben j'aime mieux me présenter et dire « Je vous déclare avec obéissance que j'ai fait ceci et cela. » Quant à l'honnêteté, c'est aussi une très belle chose, avec elle on est toujours sûr d'aller loin. Prenons par exemple les courses à pied. Celui qui triche est tout de suite disqualifié. C'est ce qui est arrivé justement à mon cousin. Un homme honnête est estimé de tout le monde. On le respecte partout, il passe son temps à être content de lui-même, et il se sent honnête tous les jours quand il se met au lit et qu'il peut se dire « Encore une journée où j'ai été honnête ». Pour écouter Schweig, son nouveau maître s'était assis. Et le discours se prolongeant, il regardait les chaussures de son tampon. Mon Dieu, pensait-il, tout ce qu'il dit, c'est des monuments idiots, mais moi-même, est-ce que je ne dis pas souvent des bêtises du même genre? Il n'y a que la façon de les dire qui varie. Pour se donner une contenance et préserver son autorité, il dit, quand Schweig eut fini, ah, chez moi, il faut avoir des chaussures toujours bien cirées, l'uniforme en bon état, tous les boutons bien cousus. Il faut toujours avoir l'air d'un soldat et non d'un voyou de civil. C'est curieux qu'on n'arrive jamais à avoir une ordonnance qui est un peu de tenue militaire. Je n'en ai eu qu'un seul qui avait une tournure martiale. Bah, celui-là m'a volé mon uniforme de parade et l'a vendu dans le quartier juif. Il se tut un instant. Puis il se mit de nouveau à expliquer à Schweig toutes les tâches qui lui encombraient, en insistant toujours sur la nécessité d'être un fidèle serviteur et de ne raconter à personne ce qui se passait. « Je reçois souvent des dames, dit-il, et quelquefois elles passent la nuit ici, quand je ne suis pas de service le lendemain. Dans ce cas, vous nous apporterez notre café au lit, mais... « seulement quand j'aurai sonné, vous comprenez ?»« Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je comprends très bien, parce que si j'entrais tout à coup sans prévenir, ça pourrait être des fois très désagréable pour la dame. Une fois, j'ai ramené chez moi une jeune fille, et le lendemain, là le jeu nous a apporté notre café juste au moment où on n'était pas très sage. » Oh, la brave femme, elle a eu peur, elle m'a échaudé le dos avec son café, elle a eu encore le toupet de me dire « Bonjour, monsieur le patron. » Alors, c'est pour vous dire, mon lieutenant, que je sais parfaitement comment on doit se tenir quand il y a une dame en visite. C'est bien, Schweig, pour les dames, il faut toujours être excessivement poli, fit le lieutenant, dont l'humeur maussade se dissipait. La conversation roulant sur un sujet qui occupait les loisirs, que lui laissaient la caserne, le champ de manœuvre et les cartes. L'éternel féminin était l'âme de son logis. Ce sont ses amies qui lui avaient créé un foyer paisible. Elle s'y était mise à plusieurs douzaines, et certaines d'entre elles s'étaient complues, durant le temps de leur séjour, à enrichir l'abri de leurs amours éphémères de mille objets utiles et agréables. la tenancière d'un café qui avait passé chez Lucas 15 jours au bout desquels son mari était venu la chercher, lui avait brodé un tapis de table. Elle avait aussi orné de gracieux monogrammes le linge de son hôte et elle était sur le point de commencer une tenture murale quand son époux était venu mettre fin à l'idylle et à son activité. Une demoiselle, que ses parents n'avaient repérée qu'après 3 semaines, voulait changer en véritable boudoir la chambre à coucher du lieutenant, en disposant partout des vases et des bibelots, et en installant un ange gardien à la tête du lit. Dans tous les coins de la chambre à coucher et de la salle à manger, on pouvait remarquer la trace d'une main féminine dont la cuisine se ressentait aussi. On y voyait toute une batterie resplendissante, de la vaisselle plate, de l'argenterie, dont d'une généreuse épouse de fabricant qui avait prodigué au lieutenant ses faveurs ainsi que des machines à couper les légumes, des appareils à fabriquer du pâté de foie gras, des casseroles, des grilles, des poêles, un moulin à café et bien d'autres choses encore. La femme du fabricant est partie au bout d'une semaine parce qu'elle ne pouvait pas accepter cette idée que le lieutenant avait en dehors d'elle une 20aine d'amis, multiplicité qui ne laissait pas d'affaiblir la verdeur avec laquelle ce costaud lui témoignait ses sentiments. Le lieutenant Lucas entretenait aussi des relations épistolaires très suivies avec des amies absentes dont les photographies ornaient son album. Depuis quelque temps, il tendait au fétichisme et collectionnait des reliques. Sa collection se composait de quelques jarretières, de 4 pantalons de dame richement brodés, de 3 chemises entièrement à jour, de plus fins cretons de soie, de mouchoirs de batiste, d'un corsage et de plusieurs bas dépareillés. « Je suis de service aujourd'hui, dit Lucas, et je ne rentrerai que très tard. Gardez bien l'appartement et tâchez de mettre tout en ordre. L'ordonnance dont je me suis débarrassé à cause de sa fainéantise part aujourd'hui pour le front. Alors attention à vous, hein ?» Il donna encore des ordres sur l'entretien du serin et du chat et sortit, non sans ajouter, en tenant la porte, quelques conseils sur l'honnêteté et sur la correction. Schweig fit de son mieux pour remettre l'appartement en bon état. Lorsque son maître rentra après minuit, la nouvelle ordonnance résuma ainsi son travail du jour. « Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que tout est en bon ordre, sauf pour le chat qui a fait un sale coup et a boulotté votre canari. » « Mais comment ça ?» tonna Lucas. « Ben, je vous le déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je vais vous l'expliquer en 3 mots. Je savais que les chats n'aiment pas les canaris et qu'ils leur font de misère. Alors j'ai voulu les mettre ensemble pour qu'ils fassent connaissance tous les deux. Et je m'étais dit que dans le cas où le chat ne se conduirait pas gentiment, j'y passerais quelque chose pour lui apprendre à vivre, parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Dans notre maison, il y avait une fois un chapelier qui, pour dresser son chat, a perdu 3 canaris, mais le résultat était si bon que le chat laissait même un canari se poser sur son dos. Alors, moi, j'ai voulu faire comme le chapelier. J'ai sorti le canari de sa cage, je l'ai fait flairer au chat. Oui, mais cette race de chat, bien avant que je n'ai pu l'empêcher, a donné un coup de dent au canari. Et le pauvre oiseau est resté sans tête. Oh, moi, je croyais pas votre chat capable d'une brutalité pareille. Si ça avait été un moineau, pas encore, mais un canari du Harz. Oh, si vous l'avez vu, ce chat, comme il bouffait de bon cœur les plumes et tout, et comme il ronronnait de plaisir. On dit que les chats n'ont pas de culture musicale et que par conséquent, ils n'aiment pas le chant du canari parce qu'ils n'y comprennent rien. Alors je l'ai engueulé comme du poisson pourri, mais je vous jure, mon lieutenant, que je lui ai rien fait de mal. Je vous ai attendu parce que vous décidiez, vous, la punition qu'il méritait, ce grelin de chat. Et Schweig, en disant cela, avait un regard si franc que le lieutenant, qui s'était élancé d'abord vers son ordonnance avec l'intention de le battre, recula, prit une chaise et demanda « Écoutez-vous, mais est-ce que vous êtes réellement un agneau du bon Dieu comme ça ?»« Vous déclarez avec obéissance, mon lieutenant, que je suis vraiment ce que vous venez de dire. C'est bien ma déveine, elle me poursuit depuis mon enfance. Je pense toujours à arranger les choses pour le mieux. Je veux que le bien de tout le monde, et à la fin des fins, je ne fais que mon malheur et celui de tout le monde autour de moi. » J'ai voulu sérieusement que le chat fasse connaissance avec le canari. Et c'est pas ma faute si cette bête l'a dévoré et si la connaissance n'a pas eu le temps de se faire. Il y a quelques années, dans la maison Stupart, un chat s'est envoyé même un perroquet parce que l'oiseau se moquait de lui en imitant son miaulement. Ben, les chats ont la vie dure. Si vous m'ordonnez, mon lieutenant, de le tuer, il faudra que je l'écrase contre la porte, autrement, il n'y aura pas moyen d'en venir à bout. » Sans quitter son air le plus innocent et son sourire de bonté désarmante, il initia le lieutenant à l'art de tuer les chats. Ce discours aurait certainement rendu fou de rage tous les membres de la Société protectrice des animaux. Il se montra si compétent sur ce chapitre que le lieutenant Lucas, oubliant sa colère, lui demanda « Mais vous avez l'air de vous y connaître en animaux. Est-ce que vous les comprenez et est-ce que vous les aimez ?»« Ben, j'aime surtout les chiens, » déclara Schweik, « parce que c'est un commerce qui rapporte beaucoup à celui qui sait se débrouiller. » Moi, au commencement, ça ne marchait pas parce que j'étais trop honnête ou encore... Il y avait des particuliers qui me reprochaient de leur avoir vendu une bête à moitié crevée à la place d'un chien de sang. Et tout le monde me demandait des pédigrés. Alors j'ai dû en faire imprimer et donner des pauvres toutous de faubourg qui étaient nés dans une tuilerie pour des chiens sortant du chenil de l'éleveur bavarois Armin von Barnheim. Il fallait ça pour contenter les clients. Il s'étonnait parce qu'un chien si précieux, venant de si loin, d'Allemagne, était poilu et n'avait pas les pattes torses. Des trucs comme ça, on en pratique dans tous les grands chenils. Et les chiens qui peuvent se vanter d'être de race, ils sont plutôt rares. Il y en a dont la mère ou la grand-mère s'est oubliée avec un monstre quelconque. Il y en a aussi qui ont eu plusieurs pères et ont hérité quelque chose de chacun. Ils ont les oreilles de l'un, la queue d'un autre, le poil sur le museau d'un troisième, le chanfrein d'un quatrième, et l'affluence du cinquième les fait boiter. Ils ont la taille du sixième, et comme il y en a qui ont une douzaine de hauteur, vous pouvez vous imaginer, mon lieutenant, quel type de cabot ça donne. Une fois, j'ai acheté par pitié un chien comme ça, Balaban, qui avait honte même de sortir et se tenait tout le temps dans son petit coin. Ben, j'ai dû le vendre à un client moravie et le faire passer pour un griffon d'écurie. Ce qui m'a coûté le plus de travail, c'était de le teindre en poivre et sel. » Le lieutenant prêtant une oreille attentive à ces explications sinologiques, Schweik put continuer. « Les chiens, ils peuvent pas se teindre eux-mêmes, leurs poils, comme les dames leurs cheveux. C'est à celui qui les vend s'en charger. » Si un chien est si vieux qu'il est tout gris, et que vous vouliez le vendre comme un chiot d'un an, ou encore le faire passer, lui qui est grand-père, pour un chiot de 9 mois, vous avez qu'à acheter de l'argent fulminant, vous le faites tondre, et avec ça vous badigeonnez la bête en noir, qui est parée toute neuve. Et pour lui donner de la force, vous lui faites manger de l'arsenic, et vous lui nettoyez les dents à l'ébris, celui dont on sert, vous savez, pour nettoyer les couteaux rouillés. Et avant d'aller le vendre, vous lui fourrez dans la gueule un peu d'eau de vie pour le saouler. Ça le rendra tout de suite vif et folâtre. Il aboie vigoureusement et fait des amitiés aux gens dans la rue, comme un conseiller municipal en goguette. Mais ce qu'il faut surtout, c'est raconter des monuments à l'acheteur pour lui bourrer complètement le crâne. Si quelqu'un veut acheter un ratier, et si vous n'avez sous la main qu'un chien de chasse, Ben, il faut savoir retourner l'acheteur de façon qu'il prenne le chien de chasse à la place du ratier. Maintenant, si un bonhomme vient pour acheter un dog d'Ulm, et si vous n'avez qu'un ratier, oh, il faut tellement lui en raconter qu'il emporte où irait le ratier et nain en s'approche à la place du molosse. Quand je tenais mon commerce de chien, une vieille dame est venue un jour me voir et m'a dit que son perroquet s'était envolé dans un jardin où il y avait des mauvais garnements qui jouaient aux Indiens et que ses gosses avaient arraché la queue du perroquet et qu'ils s'en étaient coiffés comme des agents de police autrichiens. Ce pauvre perroquet, qu'elle m'a dit, a fini par crever, d'abord de honte d'être sans queue, et ensuite d'un médicament que lui avait donné un vétérinaire. Alors elle voulait acheter un nouveau perroquet bien élevé, qui serait pas insolent et qui jurerait pas tout le temps. Mais que devais-je faire, moi? J'avais pas ce perroquet et je ne savais pas où en trouver. Mais j'avais un vieux bulldog aveugle et plein de vis. Et alors, mon lieutenant, j'ai dû jaboter pendant 3 heures pour lui coller le bulldog à la place du perroquet. Oh, c'était plus difficile qu'on résoudre une équation diplomatique. Et quand elle a ouvert la porte pour s'en aller, je lui ai dit « Eh bien, maintenant, vous verrez si les gosses auront arraché la queue à celui-là. » Ben, depuis, je n'ai jamais revu la vieille, mais j'ai appris qu'elle avait dû quitter Prague parce que son boule avait mordu tous les gens de la maison qu'elle habitait. Croyez-moi, mon lieutenant, il est très difficile de se procurer une bête convenable. J'aime beaucoup les chiens, répondit Lucas. Mes camarades qui avaient pris leurs chiens avec eux au front m'ont écrit que la guerre en compagnie d'un brave chien était bien plus supportable parce qu'on avait de quoi tuer le temps. Ah, ce que je vois, vous connaissez toutes les espèces de chiens. Et je crois que si j'en avais un, vous le soigneriez bien. Quelle espèce, d'après vous, est préférable? Je voudrais un chien qui puisse me tenir compagnie. J'ai eu déjà un griffon d'écurie, mais je ne sais pas. Ben, je suis d'avis, mon lieutenant, que le griffon d'écurie est une espèce très recommandable. Il plaît pas à tout le monde, c'est vrai, mais parce qu'il a les poils hérissés et la moustache très dure, de sorte qu'on dirait un forçat échappé de la prison. Il est si moche qu'il en devient beau, et très intelligent avec ça. Ne me parlez pas à côté de ça d'une andouille de Saint-Bernard. Et le griffon est plus intelligent que le fox terrier. J'en ai connu, hein. Le lieutenant Lucas regarda sa montre et interrompit la faconde de Schweik. Il est tard, il faut que j'aille me coucher. Je suis encore de service demain, ainsi vous aurez toute une journée pour vous enquérir d'un griffon d'écurie. Schweik se coucha sur le canapé de la cuisine et se mit à feuilleter les journaux que le lieutenant avait apportés de la caserne. « Tiens !» se dit-il en parcourant les nouvelles aux entêtes à gros caractères. « Le sultan vient de décerner la médaille de guerre à l'empereur Guillaume. Et moi, j'ai encore rien du tout, pas même la petite médaille d'argent. » Tout à coup, il sauta à bas du canapé. « Oh, j'y pensais plus, bon Dieu !» Il entra brusquement dans la chambre à coucher, réveilla le lieutenant qui dormait déjà profondément et lui dit « Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je n'ai reçu aucun ordre quant au chat. » Lucas, à moitié endormi, se tourna sur l'autre flanc en murmurant « 3 jours de chambrée !» Et il se rendormit. Schweik retourna sans bruit à la cuisine, tira le malheureux chat de dessous le canapé et lui signifia « Tu as 3 jours de chambrée, à Britain !» Insoucieux, le chat angora réintégra sa chambrée sous le canapé.